Nous allons démarrer cette rencontre. Avant cette rencontre, en fait, une brève présentation de Pascal Ruffnacht. Je vais vous dire, c'est très simple, parce que son histoire personnelle se confond avec celle du groupe Bayard. Il est rentré chez Bayard à son berceau, et il en sortira certainement donc bien longtemps après sa retraite. C'est comme cela dans le groupe Bayard, qui est un groupe intergénérationnel, par nature, il vous prend dès la crèche et il ne vous lâche pas avant l'EHPAD. Si vous voulez néanmoins un peu plus de détails, Pascal est président du directoire du groupe Bayard depuis 2017, mais un groupe qu'il a intégré il y a 31 ans, après avoir fait des études de philosophie, après avoir été coopérant en Chine, après avoir fait un peu de publicité, après avoir fait un MBA donc à HEC, hop, il est rentré dans ce groupe où il a exercé beaucoup de responsabilités à la tête aussi bien des éditions jeunesse, en fait, donc de la partie du secteur jeunesse de Bayard, que du secteur religion et culture. Il a été aussi en charge en fait des activités américaines, parce que Bayard n'est pas seulement présent dans l'Hexagone, il l'est aussi en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en fait en Amérique, en Chine, donc, et en Afrique. Et donc, il est maintenant, donc, depuis 7 ans, donc, président du directoire de cette entreprise très particulière qu'est le groupe Bayard, puisque c'est une société anonyme détenue par un seul actionnaire à 100%, qui est la Congrégation des Augustins de l'Assomption, qui a créé ce groupe, ou qui a créé en tout cas cette maison en 1873 avec le pèlerin. Alors, rapide en fait, présentation du groupe et sur lequel Pascal reviendra. Donc, vous connaissez évidemment très bien tous les magazines enfants et jeunesse. Ça vous prend de 0 en fait, à 20 ans. Il y en a plus de 40 sous deux marques, en fait, la marque Bayard Jeunesse et la marque Milan. À côté de ça, il y a les quotidiens. Donc, enfin, il y a Notre Temps, il y a Le Pèlerin. La Croix, évidemment. La Croix, Le Pèlerin, Notre Temps. Donc, toute la partie presse adulte. Et puis, en fait, il y a aussi d'autres activités. Donc, parce que Bayard est aussi un producteur de films d'animation. Il fait effectivement aussi des... où il participe en fait à des émissions audiovisuelles. Il a une application en fait éducative donc pour les enfants qui s'appelle Bayam. Il a effectivement aussi des ouvrages d'édition. Donc tout ça, ça peut paraître en fait une nébuleuse, mais il vous dira pas du tout. Tout ça a un sens, tout ça en fait a une mission, tout ça a une raison d'être en fait. Et ce groupe, justement donc qui a des valeurs fortes, qui à la fois affiche son identité catholique, mais en même temps son esprit d'ouverture, mille sensibilités, mille regards, se donne pour vocation d'accompagner chacun d'entre nous tout au long de sa vie, mais aussi effectivement dans le respect à la fois de l'homme et la nature, ce qu'il appelle l'écologie en fait intégrale, avec en fait un sens du bien commun et le besoin de créer du lien avec soi comme lien avec les autres. Tout ça fait une très belle ambition, Pascal Ruffnacht, qui doit se traduire d'ailleurs en fait dans ce statut d'entreprise à mission auquel vous aspirez en fait au mois d'octobre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'âme et l'identité de ce groupe à la fois très familier et en même temps très singulier ?
Merci Arnaud. Bonjour à tous. Peut-être pour d'abord, qui a été et abonné à un titre du groupe Bayard là aujourd'hui ?
Ah, bah, oui. Que des fidèles.
Bon, voilà, donc, je n'ai rien à vous apprendre. Peut-être quelques mots. Moi, je vais vous dire juste une anecdote. Voilà, j'avais fait des études de philosophie, puis après une coopération, je me suis dit qu'il fallait que je rentre aussi dans le monde réel, d'où ces études à HEC. Et en sortant, comme j'étais happé, et, voilà, je suis rentré chez Publicis, où tout de suite, voilà, j'ai grimpé, je commençais à gagner dans la publicité, on en gagnait beaucoup, et je me suis dit, au bout de 4 ans, ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà, je vais avoir 30 ans, 32 ans. C'est pas pour ça, je pensais pas à ça il y a 6 ans, quand je me projetais dans ma vie. Je rêvais pas de gagner forcément beaucoup d'argent, enfin, c'était pas mon but en tout cas. Voilà. Et j'avais été marqué parce que jeune, j'ai passé 2 fois 3 mois dans un kibbutz pendant les vacances. Mes parents m'avaient envoyé là-bas pour découvrir les travaux des champs, etc. Et j'ai Et je suis tombé amoureux, cette vie collective, voilà, dédiée à un idéal qui, à l'époque, c'était dans les années 73-74, voilà, gardait un petit peu la foi des pionniers. Et un jour, j'ai rencontré le président de Bayard, voilà, et quand il m'a parlé, j'ai retrouvé exactement ce même sentiment. D'un collectif dont voilà, les individualités sont importantes à Bayard. Il y a des gens très talentueux, il y a des auteurs, des grands auteurs, etc. Mais au fond du fond, c'est d'abord cette idée qu'il y a une communauté, voilà, une communauté de femmes et d'hommes qui a un idéal de production de contenu pour les enfants, les personnes très âgées, nous tous, on en reparlera, voilà, qui dépasse le destin de chacun. Et ça, ça m'a tellement touché que je me suis dit, voilà, c'est là où je veux travailler. Et ça fait maintenant 30 ans. Donc c'est au nom de ça, et ça fait penser qu'une entreprise, c'est d'abord, parce qu'on pense toujours à la finalité économique qui est réelle, mais si vous regardez la doctrine sociale de l'Église, pour citer ça, voilà, l'entité humaine, la finalité humaine est aussi importante que la finalité économique. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai toujours vécu, que maintenant, j'essaye de continuer de garder cet esprit et de l'animer. Mais enfin, bon, président du directoire, c'est rien d'autre qu'essayer d'assembler tous les talents qui sont autour de vous et de garder l'entreprise unie. Parce que comme toutes les entreprises, elle a beaucoup d'occasions de s'opposer à l'intérieur d'elle-même et d'avoir des y compris dans les sensibilités de chacun. Voilà. Peut-être quelques mots sur Bayard, comme ça, ça va vous redire un peu cette histoire singulière. Donc ça a été créé en 73 par un père, le père d'Alzon, qui était fondateur du reste des Augustins de l'Assomption. Vous savez qu'au 19e, il y a eu, je crois, plus de 4000 congrégations créées en France. Voilà. Donc c'était extrêmement riche, voilà, avec une France déchirée en deux, la France républicaine opposée à la France catholique. Et le catholicisme lui-même, il était divisé assez fortement. Alors, disons, entre ceux qui rêvaient d'une restauration, hein, du retour à l'Ancien Régime, et puis ceux, au contraire, comme par exemple le Sillon de Marc Sangnier, des mouvements comme ça, qui, eux, voulaient, on va dire plutôt de gauche, voulaient, au contraire, aller au plus près du peuple, des personnes, dans les usines, etc., etc. Donc il y avait cette division. On va dire majoritairement, elle était plutôt réactionnaire, voilà, et d'où l'affaire Dreyfus, qui a été une profonde division, hein, sur laquelle voilà, la croix s'est créée peu de temps avant, dans un combat d'une violence dont on n'imagine même plus aujourd'hui ce qu'il a pu être. Et la croix a été violemment anti-Dreyfusarde, hein, avec des propos et des mots qui sont aujourd'hui totalement inaudibles et proches même de, voilà, d'une forme d'horreur. Mais ça a été analysé, ça a été étudié, on a regardé, enfin, je veux dire, des historiens se sont penchés là-dessus. Et c'est intéressant de regarder tous les grands quotidiens, vous prenez Le Monde, vous prenez tout, ils ont tous, et on a tous fait des erreurs monstrueuses, voilà, tous pris des partis pris à certains moments, voilà, qui sont révélés après coup, non seulement non productifs, mais diviseurs du pays. Voilà. Et donc, dans cette France-là, bah, petit à petit, la croix voilà, d'abord a cédé la place à des laïcs, etc., et puis a suivi ensuite, on va dire, globalement, l'évolution de l'Église dans tout ce qu'elle est jusqu'au Concile, avec des grands moments, hein, notamment au début de la guerre d'Algérie, une dénonciation très forte de la torture, ce qui a valu des désabonnements en masse de tous les militaires abonnés à la croix à l'époque, voilà, etc., etc. Bon, on a eu comme ça des moments forts, et puis voilà, aujourd'hui, je crois que c'est un quotidien reconnu parmi les quotidiens, les grands quotidiens nationaux. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 6 ou 7 en France, hein, c'est très peu. Et évidemment, l'importance des quotidiens aussi régionaux. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est à partir de ces quotidiens qui, après, sont largement réutilisés par les autres médias, les radios, les télés. Hein, tous les matins, la revue de presse de Claude Haskolovitch, elle se fait à partir des quotidiens et de la presse. Hein. Donc c'est quand même eux qui informent, et au sens où qui donnent une forme à l'ensemble des événements que nous subissons comme ça, les uns après les autres. Et si je vous demandais, ben voilà, racontez-moi l'année qui vient de s'écouler, racontez-moi ce qui s'est passé d'important selon vous dans l'année qui s'est écoulée en France et dans le monde. Voilà, vous créeriez un récit qui est quand même inspiré, formaté, informé par les lectures que vous faites tous les jours. Et vous voyez ces lectures, juste pour vous donner aussi un autre petit signe, le Guardian, ils se sont posés des questions, donc c'est un des plus grands journaux anglais, ils se sont posés des questions il y a 5 ans sur l'utilisation, la sémantique de ce qu'ils employaient pour l'écologie. Donc ils parlaient de transformation, transition, etc. Voilà, maintenant, ils ont décidé de changer tous ces mots et d'appliquer urgence, révolution, etc. Donc ils ont pris tout un langage, une sémantique beaucoup plus dramatique, mais c'est une décision qu'a pris l'ensemble de la rédaction, considérant qu'ils étaient beaucoup trop faibles sur ce sujet. Et c'est les mots qui pèsent après dans nos consciences, c'est les mots qui nous informent, et c'est les mots qui nous font agir de telle ou telle façon. Voilà, avant la croix, le premier acte, parce que ces assomptionnistes qui sont d'origine provinciale, donc très vite ils ont senti un charisme du côté des pèlerinages. Ils ont organisé plein de pèlerinages pour emmener des gens en Terre Sainte, ils ont loué des bateaux, ils ont loué des chemins de fer, et ils ont créé d'une certaine façon le pèlerinage de Lourdes en emmenant des milliers de personnes à Lourdes, à l'époque où c'était les débuts un peu de Lourdes. Et puis ils se sont dit, c'est idiot, tous ces gens ont vécu une expérience forte, communautaire, voilà, quelle que soit leur foi, etc. Et on n'a pas de trace de lien avec eux. Et donc ils ont créé un bulletin de liaison des gens qui avaient vécu quelque chose ensemble. Hein. Donc ça, c'est un des premiers charismes de Bayard, c'est la communauté qui s'appelle le pèlerin, voilà, et qui à l'époque est monté très vite à 1 million d'exemplaires. Aujourd'hui, il a toujours 120 000 abonnés, ce qui classe parmi les 5 premiers hebdomadaires français, mais il est assez peu lu à Paris, donc peu cité dans les revues de presse, mais évidemment plus présent en province. Et de ce succès-là, parce que ça a été aussi un succès commercial, après est créé la Croix, et tout jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine façon, ils ont créé en 1903 le premier magazine dédié au cinéma, voilà, le Fascinateur. Ils ont, dans les années 30, commencé à fabriquer des projections lumineuses pour commencer à faire des animations. Alors à l'époque, ça devait être dans les catéchismes, mais très vite, l'image animée, etc., la technique, vous voyez, les chemins de fer, etc. Donc très vite, comment utiliser les techniques modernes au service de ce qu'ils considéraient comme leur mission? Donc ça, est extrêmement important. Et puis, le grand public. Et quand vous parlez avec un assomptionniste, les titres qu'il vous citera, dont il est fier, évidemment, ils sont fiers de la croix, mais ils sont encore plus fiers. Ils sont très fiers d'Ingénieur. 2 enfants sur 3 en France lisent J'aime lire, qui est le premier magazine, même européen, pour les enfants. Ou Un autre temps, qui est le premier mensuel français pour les seniors. Et évidemment, Pèlerin, qui reste dans leur cœur. Voilà, même si son avenir peut poser des questions en termes de démographie et d'avenir du catholicisme en France, on en dira peut-être un mot. Voilà. Et donc, Bayard, c'est aujourd'hui 360 millions d'euros de chiffre d'affaires. En gros, ça nous met, pour vous donner des échelles de grandeur, Ouest France, ça doit être à peu près autour de 650-700. Le Monde, c'est 400. Le Figaro, c'est peut-être 500, parce qu'il y a beaucoup d'activités dérivées, du genre golf, vin, etc. 360, voilà, on est avec autour du groupe Les Écoles Parisiens. Voilà, on est 2-3 groupes de cette taille-là. En France, ces groupes, c'est une taille moyenne, 1700 salariés. En Allemagne, par exemple, les grands groupes, enfin, la plupart des grands groupes de quotidien sont plutôt à 1 milliard. Ce qui vous laisse aussi penser qu'on a du mal en France, hein, à réunir des forces, à se mettre ensemble, notamment, on en parlera tout à l'heure, face aux plateformes, pour inventer des solutions communes. On reste très gaulois dans nos attitudes. Et aussi parce que derrière tout ça, il y a de l'éditorial, il y a des journalistes, il y a des auteurs, et que ce qui fait la force de Bayard, c'est évidemment tous les gens qui travaillent pour Bayard et qui permettent que une information arrive à destination, et aujourd'hui c'est parfois très compliqué, mais aussi c'est eux qui produisent chaque matin, ou même les nuits du reste pour la Croix, l'information, et y a une grande, comment dire, on ne dicte pas ce qu'on veut faire. Donc, juste fini sur l'histoire de la congrégation, en 1905 ils ont été interdits, évidemment, de posséder une entreprise commerciale. Donc ils ont demandé, des familles porteuses du nord de la France qui ont été propriétaires de Bayard pendant une trentaine d'années. Puis après la guerre, tout de suite après la guerre, la Croix a reparu juste après la libération. Madame de Gaulle était ce qu'on appelait noëliste. Elle distribuait la Croix quand elle était jeune, etc. Donc ça a peut-être aidé à pousser les choses, j'en sais rien. Voilà. Et la congrégation de l'Assomption a été reconnue comme capable de posséder une entreprise commerciale par le Conseil d'État. Ça a été un arrêté dans les années 70. Voilà, donc 1700 salariés. La singularité de Bayard par rapport, et vous verrez que c'est lié aussi au charisme de l'actionnaire international à 30%. Donc on a des filiales à Hong Kong, aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne, etc. Donc pour nous, c'est très important. C'est très important, et vous verrez qu'aujourd'hui, c'est même important économiquement, c'est-à-dire que la langue française ne suffit pas pour beaucoup de, de, de production, notamment dans l'édition. Hein, vous faites un livre un peu ambitieux. Vous ne pouvez pas, que sur le marché français, amortir ce livre. Voilà, vous devez vendre les droits à l'étranger, voir si vous avez des maisons d'édition à l'étranger, vous-même être capable de les produire et de les publier à l'étranger. C'est extrêmement important dans l'équation d'un livre, mais c'est aussi important dans la production quotidienne de tout ce qu'on fait dans la presse, puisque une des particularités de Bayard, c'est d'avoir pour tous les titres aussi des équipes de rédaction. Vous prenez J'aime lire, c'est 10 personnes à peu près. Donc à chaque fois, c'est pas jamais un contenu n'est réutilisé depuis 150 ans, etc. En tout cas, jamais dans les abonnements que nous faisons. Après, une des intelligences aujourd'hui, c'est d'arriver sur la création, c'est ce qui coûte le plus cher. Hein, envoyer 5 journalistes en Ukraine ou faire travailler des auteurs jeunesse qui probablement sont jamais assez rémunérés, tout ça coûte très cher et il faut trouver une façon de faire que ça soit évidemment le plus diffusé, le plus lu possible. Voilà, d'où leur attachement au grand public. Ça, c'est une autre des dimensions de Bayard. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas. L'actionnaire ne nous a jamais demandé de travailler pour une élite ou des gens, etc., mais de travailler pour le plus grand nombre. Et donc, à chaque fois, cette obsession du plus grand nombre, c'est par exemple le succès de J'aime lire, hein, ce qui fait que certains auteurs n'aiment pas forcément travailler pour ça. Un J'aime lire, pourquoi c'est très bien, souvent, toujours ? C'est parce que d'abord, il y a un auteur qui a une imagination fabuleuse, qui travaille, et puis qu'ensuite, la langue. Avec des orthophonistes, dès les débuts, 66, création de Pomme d'Api, invention de l'orthophonie. C'est-à-dire comment permettre à des enfants de rentrer plus facilement dans le langage en travaillant la phrase, la syntaxe, le choix des mots, etc., le temps des verbes et tout. Et le rôle de l'illustration. À l'origine de Pomme d'Api, il y avait un couple qui a créé le journal dont la petite fille était sourde. C'était les débuts de l'orthophonie et ils ne voulaient pas que leur petite fille apprenne le langage des signes pour ne pas être isolée dans une communauté linguistique. Et donc ils ont été voir les orthophonistes et les orthophonistes lui ont permis d'apprendre à parler comme vous et moi, avec un peu plus de difficultés, à partir des images. Et c'est quel rôle jouent les images dans l'apprentissage du langage. Et donc tous nos magazines pour enfants, que ce soit ceux de Bayard ou ceux de Milan, qui est un concurrent de Bayard, hein, ça c'est une autre particularité, c'est qu'on a... Voilà, tous sont travaillés pour le rapport texte-image et comment permettre que l'image permette pour des enfants qui ne sont pas forcément d'abord des littéraires ou amoureux des mots, puissent quand même profiter de l'histoire. Parce que le plus important, ce n'est pas d'être capable de lire. Le plus important, c'est de rentrer dans un imaginaire, de débloquer le sien et d'un seul coup, de découvrir un monde de possibles. Aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup de ça, mais il y a une vraie chape qui porte sur l'imagination. Quand on interdit à un éditeur des Pays-Bas de faire traduire le texte prononcé par la jeune poétesse afro-américaine pour Biden, de faire traduire ce texte par quelqu'un de blanc, voilà, et dire non, il n'y a qu'un noir qui peut traduire un texte comme ça, vous commencez à rentrer dans un processus extrêmement dangereux parce que vous interdisez à quelqu'un de rentrer dans les raisons de l'autre ou de rentrer dans l'imaginaire de l'autre. Or, la fiction, hein, ce qui est vraiment très important, la fiction, c'est justement ça, c'est de rentrer dans les mots de l'autre, dans l'imaginaire de l'autre, par sa voix. Et moi, auteur, ben, si j'ai envie de devenir une femme quand j'écris, ou je ne sais quoi, voilà, c'est parce que je fais ce travail de rentrer en moi et d'imagination, et c'est le principe même de la lecture. Les choses fortes, c'est... ce qu'on aime, c'est les moments de passage dans la vie. Voilà, parce que pourquoi les moments de passage? Parce que c'est là où vous êtes en ébullition émotionnelle, intellectuelle, etc. Donc, c'est quoi les grands moments de passage? C'est la lecture, évidemment. C'est un truc qui nuit quand vous y pensez, hein, d'être capable d'un seul coup de... On ne se souvient plus des efforts qu'il a fallu pour ça. L'entrée en collège, l'entrée dans l'âge adulte, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, nous, on essaye de les emmener jusqu'à 18 ans, même si aujourd'hui, c'est très compliqué à partir de 13 ans. Et puis après, les grands moments... qui bouge du reste, hein, le moment de la retraite, hein, en juin 68, on a créé notre temps. Bon, pour les retraités, ce qui était quand même en juin 68. Espérance de vie à l'époque, après la retraite, 6 ans. Aujourd'hui, on a toujours notre temps, espérance de vie après la retraite, 26 ans. Donc vous imaginez que ça bouleverse un tout petit peu nos façons de voir et de concevoir ce magazine qui ne peut évidemment pas couvrir 40 ans de vie. Voilà. Mais ce qu'on a découvert aussi, puisqu'on travaille avec des think tanks, qu'on essaye de se faire aider, par exemple, sur la projection... Dans les années 70-80, l'idée, c'est qu'on se formait 25 ans, on travaillait 35, et puis enfin, on en profitait. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait comme ça. On se forme, on sait qu'on va se reformer parce que c'est un travail infini. Et puis, à l'âge de, je sais pas quoi, 45-50 ans, on se dit, est-ce que j'ai bien mené la vie que je voulais mener en termes de, par rapport à mes compétences, mes passions, mes désirs, etc. Et on voit que les gens, dans leur tête, se reprojettent en disant bah, « Il me reste 25 ans en bonne forme, jusqu'à 75 ans à peu près. Qu'est-ce que je vais faire de ces 25 ans pour être utile, utile à moi-même, utile à la société, etc. » Et ça ne veut pas dire qu'on sera toujours sur un mode salarié, on pourra être sur d'autres modes, mode retraité. Mais nos projections intérieures sont plus simplement, sont pas régies par ces choses qu'on voit. Et nous, on essaye de comprendre ça, qu'est-ce qui se passe. Et c'est dans ces moments de passage qu'on peut créer un média. Parce qu'un média, ça répond à un stress, tout le temps. S'il n'y a pas de stress, vous n'avez pas besoin de dire quelque chose. Enfin, donc ça répond à un stress. Comment faire pour que mes enfants lisent plus facilement, parce que voilà, pour eux, et on sait qu'il faut à peu près un an pour se sentir à l'aise en lecture. Comment faire pour ne pas se sentir d'un seul coup désœuvré, perdu, si on arrête de travailler à 60 ans et qu'au contraire... Donc on est en train de créer un Parcoursup des seniors, voilà. Un Parcoursup des seniors pour qu'à partir de 55 ans, vous puissiez avoir un lieu, une grande plateforme, où on puisse à la fois les associations, des formations, etc., pour pouvoir justement construire cette utilité jusqu'à plus tard. Donc, les moments de passage, le goût de la modernité, je vous l'ai dit, les assomptionnistes, ce n'est pas des jésuites ou des dominicains, qui souvent se croient le cœur du monde, sont très intelligents et tout ça, c'est des gens assez paysans, hein, ils viennent d'origine provinciale, et donc tout de suite, ils se sont dit, on doit faire confiance aux laïcs. Nous, on ne sait pas faire. Et donc, dès le début, à Bayard, ça a été dirigé par des laïcs. Voilà. Et ce qui, vous prenez toutes les maisons d'édition jésuites et dominicaines, c'est toujours des dominicains ou des jésuites qui dirigent, toujours, parce qu'ils pensent qu'un laïc, ça peut, voilà, c'est un peu inquiétant. Eux, ils se disent, on leur fait confiance, qui, évidemment, n'exclut pas du contrôle des rencontres, on a des conseils, etc. Ils sont présents au conseil de surveillance. Mais moi, je peux vous dire, en 30 ans, et on a un organe où on discute un peu de ce qu'on fait, enfin pas un peu, on discute de tout ce que nous produisons éditorialement, mais j'ai jamais reçu un seul ordre de ma vie pour faire quoi que ce soit, voilà, pour vous le dire très clairement. Et du reste, il ne faut pas non plus fantasmer, parce que beaucoup de grands groupes capitalistes sont propriétaires aujourd'hui des journaux, Bolloré, Arnaud, Pinault, etc. Ils possèdent tous les Échos, le Parisien, le Figaro, la Famille d'Assaut. Pour parler avec mes collègues, voilà, il y a encore dernièrement eu le directeur de la rédaction de Paris Match qui est parti, ou en tout cas qu'on a aidé à partir parce qu'il s'est opposé à une couverture de Paris Match. Vous avez peut-être vu il y a 3 semaines où il y avait le cardinal Sarah, un cardinal ultra-conservateur mis à la couverture. Voilà, bon, qui est probablement une intervention de Bolloré, mais c'est extrêmement rare, extrêmement rare. Voilà, il n'y a pas de grand patron qui a pas dit « écrivez-moi ça ». D'abord, c'est méconnaître le monde journalistique, parce que même moi, si je dis à un journaliste d'écrire quelque chose, il est probable qu'il ne le fera pas. Voilà, et qu'il y a maintenant des pare-feux dans les rédactions. Il y a des assemblées de journalistes, voilà, et à la Croix, par exemple, quand moi je veux parler avec eux, je passe par la COPEC, qui est cet organe, alors qui n'a pas forcément de pouvoir juridique important, mais qui représente tous les journalistes et sur lesquels eux, ils expriment leurs opinions, leurs désaccords, etc. Donc voilà, c'est un peu un fantasme. Ça pose peut-être problème que des grands groupes capitalistes ou des patrons possèdent des journaux, mais d'abord. Si je vous dis les sommes investies par le monde depuis 15 ans, sur sa transformation digitale, on est de l'ordre des centaines de millions, hein, plusieurs centaines de millions d'euros. Voilà, donc aujourd'hui, il faut aussi financer la Libération qui est partie maintenant dans une sorte de fonds de dotation. Voilà, il avait 15 millions pour tenir, il s'est achevé et maintenant il ne sait plus comment faire, il faut qu'il trouve de l'argent. Donc voilà. Donc on a besoin de gens qui puissent. Voilà. Bah, aujourd'hui, c'est l'indépendance où un groupe pouvait, en gros, s'autosuffire et investir, voilà, est difficile à tenir.
Pascal, vous êtes intarissable sur le groupe Bayard.
Voilà, je passe. Et l'identité catholique, évidemment, puisque à travers mille regards, etc., notre raison d'être, c'est créons des liens fertiles. Voilà, c'est ça notre cœur, créons des liens fertiles, avec une grande ambition, hein, pour la Croix, par exemple, qui est d'être capable d'organiser un débat raisonné, raisonnable, entrer dans les raisons de l'autre, essayer de permettre à différentes voix de s'exprimer, voilà. Puis après, de cette ligne éditoriale qui est tenue jour après jour. Alors,
ok, moi je voudrais peut-être d'abord faire un petit message. Si certains d'entre vous qui ont les articulations suffisamment souples veulent venir là, il y a des places assises, en fait, donc non pas sur la plage, mais sur le carrelage, en fait, de la salle paroissiale. N'hésitez pas, en fait, à rentrer. Ça permettra, en fait, à ceux qui sont derrière de pouvoir gagner un petit peu de rang. Pascal, le choix qu'on a fait comme titre, en fait, pour cette rencontre, en fait, c'est le défi d'informer et d'éduquer à l'heure des plateformes numériques. Si on prend l'information, comment globalement la presse, et là je ne parle pas seulement de Bayard, comment la presse, en fait, arrive à résister et à délivrer, en fait, une information fiable face au déferlement de ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux?
Je vous réponds, je précise une dernière petite chose, c'est que nous ne versons pas de dividendes à notre actionnaire. tout ce qu'on gagne, on le réinvestit dans l'entreprise. Voilà, c'était juste pour vous dire qu'on est plus dans un domaine, un modèle d'économie sociale et solidaire, au fond, que dans un modèle purement capitaliste. Alors, l'information. Depuis 1999, avec le web 2.0, en gros, ça a donné la possibilité à quasiment tout le monde d'intervenir dans le débat public et de poster quelque chose pour le faire savoir. Non pas simplement de recevoir de l'information, mais aussi de participer, de donner son avis, d'en envoyer soi-même, etc. Et donc l'information a échappé d'une certaine façon au seul grand titre, au titre qui jusqu'alors l'a traité avec un statut de journaliste qui ne s'obtient pas comme ça, etc. Et donc c'est un bouleversement incroyable, puisque finalement, non seulement les voix s'égalisent, mais un contenu haineux que vous postez a 7 fois plus de chances d'être vu qu'un contenu normal. Voilà. Les algorithmes sont faits de telle façon qu'ils favorisent l'accélération de la diffusion des contenus, des contenus qui peuvent inciter à la... Je vous dis juste cette phrase qu'elle m'a frappée. 2020, Facebook. Nous défendons le droit... Alors, parce qu'ils ont refusé de censurer la négation de l'Holocauste. Et ils disent, nous défendons le droit de dire des choses, même si elles ne sont pas bonnes, même si elles sont fausses. Voilà. Donc, au nom... Et c'est 2020, je ne vous parle pas de 2010. Hein. Et donc, vous voyez bien que jusqu'à aujourd'hui, sauf contraint et forcé, sauf vraiment... La prolifération du faux, la montée du faux. Voilà. Le premier enjeu, il n'est pas, même pas pour les médias, il est comment combattre le faux. Voilà. Ça, c'est l'essentiel. Le faux qui a même été théorisé sous forme de notion de la post-vérité hein, par Trump et ses équipes, c'est-à-dire ça n'a plus aucune importance de se référer à la réalité. Les choses valent ce qu'on dit vaut en tant que tel, et ça vaut parce que ça transforme les esprits. Et c'est comme ça qu'on retrouve un village de Macédoine. Hein, au moment de l'élection de Trump, il y a, je crois, 600 habitants. Il y en avait 300 qui recevaient 5 000 $ par mois hein, pendant 3 mois pour poster tous les jours des posts pro-Trump et qui allaient inonder les États-Unis. Mais là, l'agence Sputnik russe, j'allais dire, qui a été interdite en France en tant que média, faisait exactement la même chose. Les manipulations aujourd'hui d'opinion, à partir soit de volonté d'État, soit de groupe... organisé soit d'individus seuls, voilà, c'est la chose la plus compliquée à laquelle faire face. Et honnêtement, pour m'intéresser aussi à nous intéresser à la question de l'éducation aux médias pour les jeunes, bon, qui, voilà, l'école qui est plutôt bien faite, c'est un travail infini et c'est pas sûr que ce soit un travail qui soit à la fin gagné. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire un bras de fer, une guerre d'une certaine façon où chacun doit faire valoir ses positions et qu'on doit avec les plateformes. Notre vie est organisée autour de quelques grandes plateformes, hein, Google, Facebook, YouTube, Twitter et autres, par lesquelles passent à peu près toutes nos relations. On passe aujourd'hui en moyenne 7 heures par jour hein, sur les plateformes. Le nombre de milliards d'internautes a dépassé là, à peu près, je crois, 6 milliards et demi, là, puis ça a encore pris 300 millions cette année. Et le temps passé s'est évidemment accéléré, on est pour la pandémie. Juste pour vous donner un chiffre qui m'a frappé parce qu'il est arrivé en septembre, les enfants de 1 à 6 ans qui passaient à peu près 1h30 par semaine sur Internet passent 6 heures aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est sorti de pandémie. Alors après, c'est une vérité moyenne, donc il faudrait voir comment elle se répartit entre les grandes villes, etc., les catégories sociales, mais 6 heures, c'est énorme. Voilà. Donc, et ça, c'est une bascule vraiment totalement nouvelle. Donc, on est tous exposés à ça. Peu de gens, quand vous tapez, Emmanuel Macron, vous ne tapez pas forcément, à part ceux qui sont abonnés, qui sont engagés, mais il est rare que vous tapiez le nom du titre en même temps. Beaucoup de gens rentrent par le moteur de recherche, ils cherchent quelque chose, et puis ils arrivent, il y a 5-6 papiers qui s'affichent. Voilà. Il y a 2 millions d'abonnés à des journaux en France, numériques, hein, digitaux. Alors oui, en dessous de 65 ans, plus personne ne lit un journal papier. Hein, c'est fini. Donc voilà. Voilà, sauf quelques-uns. Non. En France, non, mais très, très sérieusement, la diffusion papier des quotidiens, hein, ce qui n'est pas forcément en soi un problème, est quasiment... les kiosques cette année, les ventes... ont baissé de 20%. Voilà. Et donc, l'avenir de tous nos groupes, c'est évidemment l'abonnement digital. Mais quand vous regardez l'ensemble des abonnements digitaux faits par des titres de presse, on est sur 2 millions. Quand vous comparez avec Netflix, qui est autour de 15, Spotify autour de 15, vous voyez qu'il y a quand même un gros différentiel entre ce qu'on est prêt à payer pour de l'information de qualité et ce qu'on est prêt à payer pour du divertissement aussi de qualité. Mais aujourd'hui, on est vraiment en France, hein, ce qui n'est pas le cas forcément des États-Unis, hein, puisque le New York Times peut annoncer quasiment 15 millions d'abonnés digitaux aujourd'hui. Mais en France, on considère, probablement qu'on a un vieux fonds... comme les débuts d'Internet, hein, et comme les libertaires qui ont créé Internet, que l'information, elle doit être gratuite et accessible à tous. Voilà. Et qu'elle n'a pas besoin d'être rémunérée. Alors, les plateformes, ça fait bien leur affaire, ça, de dire ça, puisque, évidemment, l'information, alors je ne parle pas de l'information, est le moteur de recherche important. Je ne dis pas que c'est le seul, hein, parce qu'il y a plein d'autres choses, mais c'est le moteur important qui fait que les gens retournent en permanence sur Internet. Or, jusqu'à présent, hein, jusqu'il y a peu, et c'est l'Europe qui a inventé ça et la France qui a beaucoup poussé, quand vous affichiez Emmanuel Macron vacances, vous aviez 5 papiers, voilà, les gens lisaient, commençaient à lire ce qu'on appelle les snippets, hein, ces 4 lignes avec la photo, dont souvent ils se satisfont, voilà. Et les journaux ne récupèrent aucune rétribution pour ça, n'étaient pas reconnus, etc. Donc il y a un combat qui s'appelle les droits voisins, qui a été gagné, inventé en Europe, hein, qui est de rémunérer les utilisations voisines de l'utilisation principale, qui est de lire votre média sur sa plateforme propre. Voilà. Donc ça a été très important, c'est gagné. Après, c'est des discussions, combien vous nous donnez pour ça, voilà. Et les grands arguments de la presse vis-à-vis de Google, notamment, hein, qui est le plus important, c'est de dire, votre légitimité, si demain vous n'avez plus que des vidéos de poissons rouges et de chats qui sautent par la fenêtre, les annonceurs viendront plus. Je veux dire, qui aura envie d'afficher sa publicité à côté de vidéos de chats? Bon, voilà. Et ce qui vous légitime aussi, c'est la qualité. Voilà. Si vous voulez pas que ça devienne une immense poubelle, il faut que vous fassiez un effort pour promouvoir cette qualité, promouvoir les bons contenus. Quand je parle des bons contenus, c'est des contenus certifiés, fabriqués par des gens dont on sait qui ils sont. Vous devez faire le ménage et puis vous devez rémunérer, hein, sur les 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires que je crois fait Google en France, sans parler de ses bénéfices, il faut qu'une part revienne à ceux qui vous aident à faire ce trafic. Voilà, c'est une idée extrêmement simple, mais c'est une idée du point de vue de la... tu veux dire américain, qui n'était pas évidente. Et là, l'Europe a vraiment eu un... on n'a probablement pas de grandes... on n'a pas les Google, etc. Mais c'est vrai qu'on a un génie européen éthique et juridique, je pense, à la fois, c'est-à-dire d'être capable de penser les choses non seulement dans leur présent, mais dans leur futur, et d'essayer de voir comment protéger le plus possible l'intérêt général pour que les choses permettent à la société de continuer à exister. Donc, cette bataille contre le faux, il y a un rapport Bronner, Gérald de Bronner, qui a été fait là au mois de mai, à la demande de... décembre-janvier, à la demande d'Emmanuel Macron, voilà, qui est un spécialiste des neurosciences. Donc, c'est pas pour rien non plus qu'on s'adresse à un spécialiste des neurosciences pour traiter ces questions de la problématique du faux, parce qu'il montre à quel point, et vous le savez tous, on est avide de ces fausses nouvelles, comment elles viennent satisfaire, je crois, notre striatum, etc. Enfin, bon, etc. Tout ça. Donc, c'est à la fois politique, personnel, hein, neuroscientifique à l'intérieur de nous, et un combat de toute la société pour se battre contre ce faux. Mais ça dépend aussi du statut des plateformes, c'est-à-dire elles ne sont pas éditeurs, elles ne sont pas des éditeurs, donc elles ne peuvent pas être reconnues responsables de tout ce qu'elles produisent. Je ne suis pas sûr que ce soit la solution qu'elles deviennent éditeurs, du reste. Et donc c'est ce statut à trouver où on est responsable. Voilà. Après, si vous appelez à des discours haineux, normalement, vous devez répondre devant la loi. Voilà. En tout cas, tout ça est un domaine à la fois de recherche, d'extrême rapport de force et de liberté et de sécurité de l'internaute. Voilà. Parce que jusqu'à présent, vous connaissiez la phrase, c'est vous le produit, tout ce que vous laissez, hein, etc. Bah, ça permet évidemment de vous tracer et de vous proposer à l'infini des produits. Donc, par exemple, l'abandon des cookies, hein, le fait qu'on vous demande votre acceptation, bon, qui est un peu énervant, mais enfin, en même temps, c'est le prix de la liberté, cet énervement qui permet de ne pas traquer, de ne pas vous traquer partout où vous êtes. Et aujourd'hui, si on veut, par exemple, s'intéresser à... essayer de faire un message pour favoriser l'abonnement à la Croix, c'est pas par les cookies que je peux le savoir. C'est pas en vous suivant un peu partout et savoir où vous habitez, vous dire, ah, tiens, lui, il est allé, je sais pas, sur tel site et peut-être qu'il serait intéressé par la Croix. C'est par des populations cibles. Hein. On voit que des personnes qui ont des comportements un peu identiques, voilà, on essaie de les suivre, de comprendre les mécanismes, et c'est à partir de là qu'on raisonne. On peut plus raisonner maintenant sur l'individu propre. Donc évidemment, ça complique nos choses.
Je vais peut-être, ouais. On va peut-être passer à l'éducation, parce que le principe effectivement de cette rencontre, c'est qu'après, il y ait un jeu de questions-réponses, et je suis sûr qu'on reviendra sur un certain nombre de ces sujets. L'éducation, là, d'une manière générale, en fait, tous les adultes que nous sommes, en fait, ont très peur, effectivement, de l'influence des écrans qu'ils ne peuvent pas contrôler sur leurs enfants. Donc, n'ayez pas peur, j'ai déjà entendu ça quelque part. Donc, globalement, quel est votre message sur le numérique ?
D'abord, c'est une pratique. Donc on peut pas. Pourquoi nous on s'intéresse au digital ? Pourquoi on est présent avec des applications, y compris pour les enfants ? Moi, à titre personnel, je suis amoureux du papier, mais notre vocation, c'est d'être présent là où les gens sont présents. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes massivement sur le digital. Il serait absurde de ne pas être présent dans ce domaine du digital. Après, ce sont des outils révolutionnaires, et donc il faut apprendre à vous en servir. Si je vous sortais des lettres de parents reçues dans les années 70, lorsque Bayard publiait des bandes dessinées, et que les parents nous disaient « c'est une horreur, comment est-ce que vous pouvez accepter de faire ça, c'est dingue, c'est la mort de la littérature », je pense qu'aujourd'hui, n'importe quel parent se réjouit quand son enfant a une bande dessinée entre les mains, en disant « mais c'est fantastique, continue à lire, etc. » ne va pas. Voilà. Donc, les médias, les formats par lesquels nous accédons à l'éducation, à l'information, sont en constante évolution. Qui pouvait imaginer ? Aujourd'hui, c'est la vague de l'audio qui déferle. Voilà, on se rend compte qu'on apprend bien avec l'audio, qu'on découvre, qu'on peut s'informer bien avec l'audio, et c'est une véritable explosion des formats audio, de tous les formats audio, hein, aussi bien livres, mais aussi d'informations, etc. Le podcast, qui est quelque chose d'inconnu il y a encore quelques années. Mais un format comme celui de Brut, voilà, qui est le premier média de la jeunesse en Inde, hein, et en France, c'est un des premiers médias aussi. Ils ont créé un format à partir de... Ils ont inventé ce format, voilà, qui a ses vertus et probablement ses défauts, mais il est incroyablement... Et quand vous entendez des jeunes vous parler de ce qu'ils découvrent sur TikTok, c'est absolument dingue sur TikTok. C'est-à-dire que sur TikTok, vous pouvez... Le Monde, qui fait des choses absolument exceptionnelles sur TikTok, mais vous avez une information, vous avez tout, mais vous avez aussi une information de grande qualité. Et Hugo Décrypte, qui n'est pas sur TikTok, aujourd'hui, je pense qu'en audience, c'est le premier à réunir autant de jeunes en France. Donc, et il a commencé il y a deux ans et demi. Donc, il y a toujours des possibilités de créer des formats. Et il faut pour intéresser, etc. Alors, d'abord, en France, il y a assez peu d'investissements dans ce qu'on appelle le EdTech, l'éducation tech. Hein, aux États-Unis, le premier fonds, il était à 1 milliard. Et en France, nous, on participe d'un fonds qui a levé pour son deuxième tour 100 millions. C'est pas au niveau européen, hein, c'est pas beaucoup. Voilà. Donc ça veut dire que c'est pareil. Les gens qui inventent les solutions éducatives technologiques, si on veut pas que Microsoft soit la solution de toute l'éducation nationale, etc., ou Google, voilà, il faut aussi qu'on pousse en France des investissements pour avoir des lieux digitaux de qualité. D'abord, c'est les adultes qui montrent l'exemple. C'est-à-dire, le rapport pour les enfants, c'est toujours la même histoire. Pourquoi tu lis pas ? Ben, toi, est-ce que tu lis ? Voilà. Et pour les écrans, c'est la même chose, peut-être encore pire, c'est... passe pas tout ton temps, bah oui, mais toi, tu passes 7 heures par jour, etc. Et je te vois pas forcément ne rechercher que de l'information. Voilà. Donc, c'est une éducation qui passe par l'école, qui passe par la famille, par les parents. Et on parle même d'une parentalité numérique, hein, pour aider les parents à aider leurs enfants à bien servir de ces outils. Mais ce sont des outils, voilà, qui n'ont pas les mêmes vertus que les outils papier, mais qui ont des vertus absolument extraordinaires. D'abord, de rapidité de mise en relation avec l'information, de capacité à mettre en lien les informations entre elles, etc. Et puis vous avez devant vous la New York Library en ligne pour tous les âges, etc. Et ça, c'est absolument fabuleux. Donc, la question centrale, elle est autour de l'attention. Hein, Bruno Patino, là, avec le poisson rouge et la civilisation du poisson rouge, etc., a montré évidemment les dangers qui porte sur cette attention, mais la question, c'est comment travailler l'attention et les écrans. Alors, il y a eu un avant et après pandémie en France, hein, puisque vraiment, d'abord, l'éducation nationale, bon, vous savez, un million de salariés, c'est pas forcément facile de la transformer, mais en revanche, dans tous les rectorats de France, il y a un nombre d'initiatives prises par des enseignants, des directeurs d'école, etc., qui sont absolument fabuleuses. Aucun de vous ne... Tout le monde passe ici par les ENT, les environnements technologiques, voilà, qui marchent très bien. Hein. Les Hauts-de-France, ils ont, voilà, pour un euro par enfant, ils ont pris une solution où toutes les familles sont équipées de ça, ce qui permet aussi aux familles les plus lointaines d'être un peu plus raccordées à l'école, de rentrer en lien avec des ressources aussi, etc. Donc, ça permet, comme toujours, c'est intéressant de savoir ce que la technologie fait pour les plus fragiles. Et pour les plus fragiles aujourd'hui, pour les 10, voilà, c'est une vraie aide. C'est une vraie aide à sortir de dyslexie et à travailler de façon personnelle, parce que aujourd'hui, ça permet, ça permet la personnalisation, et l'intelligence artificielle est en train de renforcer ça. C'est comment s'adapter au trajet de chaque enfant, de chaque adolescent, pour mieux le suivre, pour mieux évaluer là où sont ses faiblesses, etc. Et ça, c'est extraordinaire. Par rapport à un enseignant qui peut s'appuyer aussi sur cette aide-là, ça lui permet de faire de la micro, du micro-suivi d'élèves et donc d'adapter parfaitement son cours. Ça permet évidemment, aujourd'hui, je veux dire, Harvard travaille sur son Harvard digital. Bon, eux, ils font des cours qui sont quasiment des productions de télévision avec la qualité, le son, tout est travaillé. Et vous voyez bien que si vous êtes à Pondichéry ou à Shanghai, voilà, vous n'avez pas besoin d'aller à Harvard. Harvard est là, viens chez vous. Et donc, il va y avoir, dans les années qui viennent, exactement comme pour l'information, hein, des combats d'influence pédagogique où voilà, les solutions les plus fortes, voilà, gagneront l'ensemble du monde avec des grandes marques, si je peux dire, j'aime pas le mot, mais disons qui permettront d'accéder à des savoirs un peu partout, mais simplement ceux qui les émettront seront ceux qui ont réussi à utiliser bien cette technologie, à investir fortement, parce qu'il faut faire des paris démentiels en termes financiers pour accéder à ça. Voilà. Donc on est dans un combat, mais il faut sortir de l'immédiateté. Bon, évidemment qu'il y a des choses stupides, mais il y a plein de choses stupides partout. Je veux dire, passer Candy Crush pendant 3 heures, c'est idiot. Voilà. Mais aller se renseigner voilà, sur la situation d'un pays avec Wikipédia, qui est quand même quelque chose d'incroyable et de plus en plus sûr en plus. Voilà. Moi, je vous invite aussi... Je ne sais pas qui donne de l'argent pour Wikipédia, mais ça, c'est un bien commun. Voilà. Et c'est ma dernière, j'arrête. Au fond, information et éducation, ma question, c'est est-ce que ce n'est pas des biens communs ? C'est-à-dire, un bien commun, c'est quelque chose qui n'appartient à personne, mais dont tout le monde est responsable. Voilà. Et quand vous postez un commentaire haineux, ou dont vous savez pertinemment qu'il est faux sur Facebook, vous détruisez ce bien commun. Voilà. Quand vous poussez à une utilisation idiote d'Internet pour un enfant, parce que vous êtes vous-même producteur et que vous voulez... Voilà, vous détruisez ce bien commun. Et donc, je pense que cette notion de bien commun qui est en train d'émerger en Europe, qui aux États-Unis a sa traduction des commons, mais disons en Europe, c'est le bien commun, ça a été créé, un concept qui a été créé par Saint-Augustin, hein, donc c'est pas récent, mais aujourd'hui, il retrouve toute son actualité avec le climat, hein, l'eau, l'air, etc., qui sont des biens communs. On peut considérer que l'information et l'éducation sont des biens communs qui demandent à être régis de façon particulière. Et il faut inventer la gouvernance de ça, hein, comme il y a une gouvernance de l'Internet. Voilà. Et donc, l'enjeu principal, c'est la régulation. Comment réguler les choses pour que ce bien commun, ces biens communs, soient préservés. Voilà. Donc, voilà.
Bon, bravo. Et merci, Pascal. Pour ce très brillant exposé. Des questions, on va faire circuler le micro pour vous écouter.
Qu'est-ce que vous pensez de la fascination des jeux vidéo qui torpillent ce que vous venez de dire un peu pour les jeunes ?
Non mais tout est toujours pareil, c'est une question de mesure. En soi, les jeux vidéo, d'abord, vous pouvez avoir des jeux vidéo très intelligents. Nous, on participe à la création d'un jeu vidéo lié à l'apprentissage. Comment permettre des apprentissages ? C'est-à-dire, vous retrouvez les mécaniques du jeu vidéo, hein, qui sont ces mécaniques parfois un peu stupides, de répétition, etc. Voilà. Mais vous essayez de les appliquer. Ce qu'il faut, c'est toujours aller voir chez l'autre ce qui est intéressant. Il y a des mécaniques qui marchent, donc ne les ignorons pas. Utilisons-les à des fins intéressantes, et par exemple pédagogiques. Voilà. Il y a plein de... Aujourd'hui, par exemple, sur les formats d'information, on voit bien que les jeunes, si on veut les intéresser, il ne faut pas avoir faire de l'information à partir de jeux vidéo, que ça se développe, ça, aujourd'hui. De jeux vidéo ou de pouvoir... Donc, il faut... Bon, et encore une fois, 6 heures par jour de jeux vidéo, c'est trop.
C'est très addictif. Je voulais savoir si vous avez un projet ou peut-être déjà travaillé dessus sur les jeunes qui sont au milieu défavorisés, qui sont embringués dans des TikTok avec des algorithmes négatifs qui ne sont pas terribles. Et les jeunes de notre avenir qui n'ont pas les moyens de prendre des abonnements chez Bayard. Est-ce que vous pensez un peu, vous avez un projet par rapport à ça ?
D'abord, en France, il y a des réseaux fabuleux. Les bibliothèques sont proches de chacun. Il y a des médiathèques et des bibliothèques fabuleuses. Aujourd'hui, le nombre de personnes qui vont dans les bibliothèques et médiathèques diminue. Ce qui est extrêmement inquiétant et qui fait réfléchir. Mais quand vous allez dans une médiathèque, vous pouvez voir que vous avez une richesse incroyable qui est accessible à tous. Nous, du reste, moi, je suis très fier parce que J'aime lire, Tom Tom et Nana font partie des trois premiers titres qui sortent le plus en bibliothèque pour les enfants. Et donc ça me fait... on touche quasi rien pour ces utilités. Enfin, ça, mais ça, c'est l'influence et ça me fait extrêmement plaisir. Donc, tout le monde... le dialogue, aujourd'hui, une chose est gagnée, à peu près gagnée, cette séparation, cette sanctuarisation de l'école qu'il y avait jusqu'à aujourd'hui, où les enseignants, en gros, parlaient pas aux parents, tout, même se méfiaient, s'inquiétaient, et vice-versa, aujourd'hui, elle est en train de sauter. Je dis pas que c'est gagné, j'ai eu très peur avec Samuel Paty qu'on retrouve une forme de sanctuarisation en disant que surtout les parents ne pénètrent pas dans l'école, parce que c'était un peu ça qui avait créé ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, le dialogue est en train de se créer. Les états généraux de l'éducation montrent que maintenant les associations de parents sont invitées. Donc les solutions, elles sont communes. Elles sont entre l'école, elles sont entre la famille. Les familles, c'est là aussi où... Toutes les familles, c'est là où se créent les pratiques. On n'en parle jamais. C'est un mot qu'on n'entend jamais au niveau politique. Or, c'est un lieu d'expérimentation quotidienne fabuleuse pour suivre ces choses-là. Donc il faut dialoguer avec les enseignants, faire des états généraux sur ces questions-là et puis inventer les... Voilà, TikTok, c'est toujours pareil. C'est le meilleur et le pire. Vous avez tout. Voilà. Mais vous avez aussi le meilleur. Vous avez aussi le meilleur. Voilà. Et nous, on est en train de s'y mettre, là, de produire des contenus pour TikTok. Encore une fois, là où sont les enfants. Donc, là où ils sont. Et après, après, c'est tout le combat avec ces plateformes pour faire que vos contenus soient poussés, soient reconnus, etc. etc.
Merci beaucoup. C'était extrêmement intéressant, même si c'est forcément rapide, étant donné la variété des sujets. Moi, je voudrais savoir, s'il vous plaît, comment vous travaillez cette question de la régulation, parce qu'il n'y a pas le vrai d'un côté et le faux de l'autre, c'est bien plus complexe que ça, en particulier dans les domaines scientifiques, médicaux. Il y a plein de débats en ce moment qui sont extrêmement complexes. Moi, je suis concernée, j'ai une fille qui est à la croix.
Ah bon ?
Anne-Bénédicte.
Elle est même directrice adjointe de la rédaction.
Oui, voilà. C'est bon. En tout cas, même dans notre famille, nous, ça a créé des sacrés débats. Parce que, justement, ces questions, je pense à toutes les questions liées à la pandémie, à la vaccination, comment vous régulez, où est-ce que vous envisagez de le faire, ce qui est présenté comme vrai et qui n'est pas forcément.
D'abord, il y a des statuts.
Qui n'est pas aussi absolu que ça. Parce que on ne peut pas dire il y a le vrai et le faux, c'est bien plus complexe que ça.
Il y a plusieurs domaines. Il y a plusieurs domaines. Vous voyez, je vais prendre une autre question. Je vais prendre le mariage pour tous. Allez, pour s'amuser. Il y a plusieurs domaines dans la presse. Il y a plusieurs domaines d'intervention. Il y a ce que dit la doctrine. Ok, ça, voilà. Ce que disent les experts. Moi, j'ai vu, les études montrent que tous les couples, du même sexe, ça marche pas moins bien ou mieux, j'en sais rien, peu importe. Voilà. Et puis il y a les témoignages. C'est aussi un registre important. Voilà, des gens qu'on invite à venir parler de leur situation. Et votre opinion, elle se forme par une circulation entre les témoins, les experts, la doctrine, et puis comment le journal active cet ensemble de compétences. Il n'y a pas... Nous, on a... La Croix, on a renforcé le débat. Enfin, pas le débat et on appelle ça à vif d'opinion. Voilà. Il y a plein d'opinions avec lesquelles on n'est pas d'accord. Plein. Mais c'est important qu'elles s'expriment. C'est important qu'elles puissent... Voilà. Elles sont légitimées du fait d'être dans la Croix, exposées là. Mais c'est très important de les entendre. Et c'est très important que les gens qui les portent se sentent reconnus. Parce que sinon, c'est ça le début du débat. Quand on dit entrer dans les raisons de l'autre, c'est permettre déjà que tes raisons soient exposées. Encore une fois, dans le cadre de la loi, du respect de la loi, etc. Mais on peut avoir des avis très différents. Donc, la formation, on n'a pas... Un journal n'a jamais... Enfin, je veux dire, sauf... On l'a fait de façon... on le fait de façon très exceptionnelle et on n'aime pas le faire quand il faut appeler à, je sais pas quoi, à voter une décision. Ça nous prend des heures parce qu'on déteste faire ça, parce que au fond, pourquoi on irait infantiliser un électorat qui est tout à fait capable de choisir lui-même? Voilà. Mais on circule. Voilà. Il faut pas rater tous ces niveaux-là. Le témoignage, la vie, les experts, et par exemple les experts scientifiques, voilà. La doctrine. La doctrine, si je prends dans la science, c'est que quelque chose qu'on est capable de répéter plusieurs fois, ça devient une théorie. Et si c'est une théorie, au bout d'un moment, il y a quelque chose de vrai, quoi. On peut le démontrer. Donc il y a quand même des choses qu'on peut savoir sur comment la science fonctionne. Je ne dis pas que c'est toujours noir ou blanc, mais voilà, on peut dire que jusqu'à présent, quand on regarde les gens qui sont décédés du vaccin, etc., voilà, vous pouvez prouver des choses. Et donc ça, c'est la démarche scientifique. Elle est quand même extrêmement importante et souvent mise à mal par... parce que simplement, on est... Voilà, si on dérembourse les produits homéopathiques, voilà, c'est que voilà, des études ont dû être faites pour montrer que ça n'avait pas... Après, si ça a de l'efficacité pour vous, tant mieux. Il y a aussi des tas d'autres effets. Mais il y a quand même des scientifiques qui peuvent démontrer des choses. Et ça, c'est important. Je ne dis pas que ça... comme on est dans le domaine pas forcément des sciences dures et exactes, c'est moins facile. Mais enfin, bon, ça, c'est une démarche. Bon, voilà comment on essaie de faire. En tout cas, de ne pas se satisfaire. Il n'y a pas un journaliste qui dit, tiens, voilà quoi il fait, ce qu'il faut penser. Non. Il y a un journaliste qui fait un papier, donc forcément, il y a une partie de lui-même qui s'exprime. Et puis, il est entouré de tas d'autres choses. Je peux vous dire, dans Pèlerin, qui est un journal, on ne va pas dire d'extrême gauche, hein, bon, mais qui est un journal profondément grand public. Il y avait 5 témoignages au moment du mariage pour tous, je me souviens, et le deuxième témoignage était un couple de femmes de 65 ans qui vivaient ensemble depuis 30 ans. Bon, ben voilà, pour le lecteur, il peut entendre ce qu'il veut du magistère, etc., et puis il voit un témoignage, et puis après, vous faites votre alchimie dans votre tête, et puis c'est vous qui construisez ça. Et puis vous dites entre ce que je ressens, ce que je pense, ce que je ressens, ce que je vois, qui dans sa famille n'est pas confronté à ça? Donc c'est ça l'émergence d'une pensée. C'est quand on la confronte à l'ensemble de ça.
Une question ici. Oui. Alors d'abord, je voulais compléter pour tout ce qui est médiathèque. La BNF, vous pouvez vous inscrire en ligne pour 15 euros par an. Je ne vais peut-être pas le dire parce que moi aussi je suis journaliste, mais vous avez accès à plein de journaux en France et à aussi plein de livres, tout ce qui a été numérisé en fait. Voilà. Donc pour 15 euros par an, voire gratuit si vous êtes chômeur ou différentes conditions. Donc, on l'utilise pas mal en tant que journaliste pratique. Et donc oui, je suis journaliste en presse professionnelle depuis 22 ans, et puis ça fait très longtemps qu'on se pose la question des différents formats, de comment attirer le lecteur. On n'en trouve jamais la solution, mais bon, je suis un peu curieuse de savoir comment vous arrivez entre l'audio, la vidéo, la lecture qui quand même baisse.
Ça c'est une tendance lourde, c'est que l'Internet qui s'est créé avec le texte, il est en train d'être submergé par l'Internet vidéo. Si vous prenez un groupe comme Prisma, qui fait tout, Capital, tous ces journaux-là, et que vous allez sur Internet, quasiment tous leurs articles sont transformés en vidéo. Ils ont maintenant des machines, des appareils qui permettent à la fois en audio, en vidéo ultra rapide, etc. Bon, nous, on est... D'abord, on ne peut pas tout faire. Encore une fois, tout ça, c'est des investissements de dingue. Le monde, c'est 120 technos, voilà. C'est-à-dire des ingénieurs qui, tous les jours, développent. Donc ça, c'est des coûts nouveaux pour nous, et je vous rappelle que non seulement on a toujours à servir les journaux papier, c'est-à-dire à avoir des rotatives avec des ouvriers largement syndiqués et avec des diffusions qui baissent, donc très très peu d'effets variables du côté papier. Et de l'autre côté, vous devez investir sur la transformation digitale, où là, vous devez embaucher des ingénieurs, etc., et essayer de comprendre ce qu'ils font et essayer de leur expliquer. Voilà. Donc c'est très compliqué. Mais comment, investir, ne pas tout faire, parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc nous, on a plutôt favorisé, je parle de la Croix, on a plutôt favorisé l'audio à ce stade. On n'est pas passé à la vidéo. Mais par exemple, on voit bien le succès de Figaro Vox. On pense qu'on veut, mais c'est un grand succès d'audience. Voilà. Et l'audience, c'est important, parce que derrière, c'est comme à l'entonnoir, les gens qui vous goûtent une fois, deux fois, et puis ils se transforment après en abonnés. Donc vous êtes obligé de faire goûter aux gens ce que vous faites. Et c'est vrai que l'opinion, hein, puisque Figaro Vox, c'est ça, ça attire chacun d'entre eux. Qu'est-ce qu'il pense, lui, etc. C'est pas tellement la vérité journalistique qui a cherché, mais c'est qu'est-ce que pense cette personne. Et donc, par exemple, ce Avif, là, créé au mois de septembre dernier, pour nous, c'est un vecteur extrêmement important d'audience. Et donc, il y a des millions de gens, hein, à peu près chaque mois, 7 millions de personnes, qui viennent goûter à la Croix. Voilà. Et puis là-dessus, il y en a à peu près... 3000 qui se transforment en abonnés digital chaque mois. Voilà. Alors, ça serait mieux que ce soit 30. Mais voyez, nous, la Croix, c'est compliqué parce que la Croix, c'est archi reconnu. Il a été, je crois, cité 5 fois par Claude Laskolovitch la semaine dernière, donc ça m'a fait très plaisir. C'est très reconnu, très respecté, etc. Voilà. Mais en abonnement, si je prends sur les 30 dernières années, on a toujours été à peu près à 100 000 abonnés. 100 000 abonnés papier. Est-ce que le digital va multiplier ces 100 000 fois 5 ? J'en suis pas certain, parce que vous n'avez pas forcément 500 000 personnes qui, à un moment donné, sont prêtes à faire l'acte de payer 10 euros par mois pour à la Croix. Mais il faut continuer à être dans l'espace public. Il y avait les kiosques, il y a toujours les kiosques, heureusement, mais les kiosques qui étaient un vrai espace public, où tout le monde voyait les titres des autres, etc. Si ça disparaît, l'espace public, ça devient Internet. Et donc, votre espace public, c'est quoi ? C'est l'audience. C'est quand vous tapez... n'importe quel sujet, la Croix possiblement peut s'afficher. Voilà, peut s'afficher parmi les 5 premiers. Et c'est ça notre combat. Donc, vous voyez, c'est ça ce travail-là. C'est tous les jours, c'est et ce que font beaucoup de journaux aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ? Ils pompent les dépêches AFP, et puis ils mettent leur logo dessus, et c'est republié tel quel. Voilà. Nous, on s'interdit ça, par exemple. Aucune dépêche AFP n'est reprise telle quelle. Elle est automatiquement retravaillée, repensée à l'aune des choses. Donc c'est un ensemble de petites pratiques, mais à la fin, c'est ce qui fait aussi que les gens pensent que vous êtes sérieux, etc., et respectable. On a la chance en France d'avoir une certaine diversité de la presse. Voilà. C'est extrêmement important de la protéger. Je pense que ces grands titres de presse, je vous l'ai dit au début, c'est ce qui nous informe, ce qui nous donne une position dans la société. Voilà, il faut qu'elle soit souple pour être capable de dialoguer avec les autres, mais c'est une... Alors, il y en a qui se créent, on peut se créer, Mediapart, Alors, c'est facile quand on part de rien, c'est plus facile quand on n'a pas de passé à porter et qu'on commence à zéro. Mais Mediapart, c'est 74 journalistes et ils sont bénéficiaires, voilà. Alors que tous les titres de presse quotidienne papier qui transforment digital, bah, ils sont tous dans le rouge. La Croix, c'est 4 millions par an de pertes ou d'investissements, comme vous voulez. Voilà. Et pourquoi on le finance ? On le finance parce que la jeunesse gagne ces sommes et qu'on les réinvestit là. Donc, c'est comme ça. Ouais. On aimerait bien, voilà, si quelqu'un nous donnait 30 millions, ce serait super, mais il faut que certains gagnent pour qu'on puisse investir. Donc c'est comme ça tous les jours.
Alors il y a une question ici.
Oui, pour revenir à l'éducation, quelle est la position du groupe pour l'écriture inclusive ? IEL, IEL, et comment est-ce qu'on va faire ?
Je vous propose de demander, derrière vous, là, il y a une femme qui est directrice de la maison d'édition Bayard, Florence Lotté. Est-ce que tu peux répondre sur l'écriture inclusive ?
Marie-Laure.
Pardon.
Excusez-moi. Peut-être qu'elle pourrait répondre sur l'écriture inclusive et...
Je peux répondre sur la maison d'édition Jeunesse. Sur l'écriture inclusive, D'abord, on est en réflexion. On a un directeur de la correction qui anime un groupe de réflexion justement sur le sujet. On n'a pas de position dogmatique. On a des élans des éditrices qui sont assez jeunes, qui sont très concernées par ça, comme elles sont aussi concernées par l'écologie, etc., qui portent ces sujets. Voilà, de façon beaucoup plus importante que les éditrices plus âgées qu'il y a dans le groupe. Donc c'est porté par la jeunesse. Et la réflexion porte sur la question de comment est-ce qu'on met un curseur sur les titres qui sont censés aider les enfants à lire et à rentrer dans une histoire, entre l'écriture inclusive qui parfois rend la lecture un peu difficile, et les titres sur lesquels la lecture est déjà acquise, sur lesquels on est plutôt sur du domaine du réel, c'est-à-dire que dans l'imaginaire... Ce que disait Pascal, c'est qu'on peut se projeter, on peut être homme, femme, autre, et se projeter dans n'importe quel profil, noir, blanc, etc., se projeter dans n'importe quel personnage de l'imaginaire, et c'est ça la richesse de la fiction. Voilà. Et ça, là-dessus, on n'a pas beaucoup d'écriture inclusive. En revanche, quand on s'adresse à nos lecteurs en leur disant « ça, c'est un récit documentaire qui va t'expliquer pourquoi le livre qu'on vient de sortir, là, c'est comment bien utiliser les écrans, justement, pour les enfants », dans ces cas-là, dans des livres de ce genre-là, on essaye le plus possible de mettre en place de l'écriture inclusive ou en tout cas de bien prendre en compte tous les enfants dans leur genre divers.
Ce qui est important, c'est que vous travaillez...
C'est une étude, c'est un collectif et c'est du travail.
C'est les jeunes qui rentrent de 25 ans chez Bayard, je peux vous dire, mais sur l'écologie, ils sont intransigeants. Voilà. On organise, dans Vieil Héritage des Pèlerinages, on organise toujours des croisières. C'est pas un gros chiffre d'affaires, mais c'est important pour la marge. Et dans ces croisières, toutes ne sont pas... Il y en avait 3 ou 4, évidemment celle qui rapporte le plus, qui était pour le Spitzberg, des lieux comme ça, voilà, des lieux extrêmement... bilan écologique désastreux. Voilà. Et sur les 5000 tonnes carbone que ça, créer ces croisières. 2500 étaient dus à ces trois croisières-là. Voilà. On a pris la décision. Évidemment, celle qui rapporte le plus. Voilà, on a pris la décision. Mais j'allais dire, même si je n'avais pas voulu le faire, pousser par d'arrêter ça. Voilà, de dire non, c'est le baiser de la mort d'emmener des gens voilà, de façon massive sur le bug. Il faut arrêter ça. Donc l'équipe est en charge maintenant de trouver qu'est-ce qu'on va faire à la place. Qu'est-ce qu'on fait d'intelligent et d'écologiquement responsable. Donc les jeunes qui rentrent dans l'entreprise, mais, ils sont intransigeants. Intransigeants surtout. Voilà. Sur le temps qu'ils veulent passer dans l'entreprise, sur les exigences écologiques, sur leurs exigences liées aux questions de genre. Voilà. Donc, une entreprise, c'est aussi de prendre en compte toutes ces sensibilités-là.
Après, oui, bonjour, monsieur. Moi, je suis professeur en lycée. J'aurais aimé revenir sur l'éducation au numérique. Je suis d'accord avec l'idée qu'il faut absolument accompagner, éduquer au numérique, à l'esprit critique, etc. Seulement, le problème, ce n'est pas le numérique, c'est les réseaux sociaux, c'est l'économie de l'attention, c'est le fait qu'il y a une sorte de prédation sur Internet pour capter l'attention des jeunes. Et franchement, en tant que professeur, on voit réellement qu'il y a une difficulté attentionnelle chez les jeunes, qui vous concerne, en tant, à mon avis, que groupe de presse, parce qu'on voit que les jeunes, par exemple, ne sont plus tellement capables, certains, souvent les plus défavorisés, ça a été mon cas, j'ai enseigné en zone difficile, ne sont plus capables de lire, par exemple, un article de presse du début à la fin. Non pas qu'ils ne savent pas, mais ils ne veulent plus, ils n'ont plus l'appétence pour ça. Donc j'aurais aimé avoir votre avis. Est-ce qu'il faut réguler? Est-ce qu'il faut légiférer? Vous êtes attaché à la liberté de la presse. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas changer de logiciel sur Internet pour vraiment réguler, interdire cette prédation? Il y a vraiment des techniques pour rendre les jeunes très addicts dès le plus jeune âge aux réseaux sociaux. Il y a vraiment une concurrence féroce pour l'attention des jeunes, quoi.
Non, mais alors, vous savez que ces questions-là, il y a des heures et des heures de débats passés dessus, et on ne va pas résoudre ça et ni résumer ça. Mais d'abord, il y a des tas de lieux de réflexion autour de ça. Vous avez un organisme Canopé pour l'éducation nationale qui est chargé de penser à ça, avec des dizaines de personnes qui réfléchissent aux pratiques, etc., et qui essayent d'instaurer des pratiques positives. Le fait que pour un jeune, ce soit dur de lire la recherche du temps perdu aujourd'hui. Moi, je ne sais pas si je trouve ça dommage par rapport à la culture, à l'éducation que j'ai eue et au bonheur que j'ai eu, mais je ne sais pas si c'est forcément, dramatique. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses qui se créent aujourd'hui. Il y a des choses qui se créent par les jeunes et pour les jeunes, alors peut-être autour de d'autres tendances artistiques, etc., mais sans cesse, et des choses de grande qualité. Donc, moi, je ne suis pas du tout nostalgique de ce qui est fait. Bon, l'attention, vous avez raison, l'attention, c'est quelque chose de très important. On est maintenant, on voit bien on est plutôt sur des périodes de micro-attention, etc. Mais je pense qu'il n'y a pas d'interdiction possible. Voilà. Ça, c'est illusoire. Vous n'allez pas créer des barrières qui empêchent. Alors, sauf si, mais ça, c'est un choix. Hein. En tout cas, dans les démocraties, c'est impossible. Sauf si vous décidez, comme la Chine, que désormais, tous les livres étrangers, nous, ça nous est arrivé, on a une filiale là-bas, ne peuvent plus publier en Chine. Voilà. Vous décidez qu'une population entière n'a plus accès à...
Je ne pensais pas à la censure, mais par exemple, il y a des techniques qui sont employées pour... il y a des études qui ont été faites. Les repentis de la Silicon Valley disent bien qu'ils avaient conscience d'utiliser des techniques. Non, mais... La boîte de Skinner, par exemple, c'est une manière de rendre addict un rat. On utilise ces techniques sur les réseaux sociaux, les free-to-play, les jeux vidéo.
Quand Patrick Lelay disait on vend du temps de cerveau disponible, ok, mais il n'y a pas que TF1 qui existe sur Terre. Il y a aussi Arte, il y a France, il y a des tas d'autres. Donc le choix est possible. Et donc quand un choix est possible.
Non, mais
quand un choix est possible, ce qui est le cas en France, toute la question c'est comment éduquer à ce choix intelligemment. Mais j'allais dire ça vaut pour ça, ça vaut pour tout. Comment vous vivez, comment. Vous voyez ce que je veux dire, c'est.
Oui, mais en tant qu'éducateur, on se bat contre des masses. Franchement,
le rapport de force n'est pas le même. Le rapport de force n'est pas le même. C'est pour ça que c'est pas forcément au niveau français simplement que ça peut se résoudre. C'est pour ça que je parle vraiment de génie européen et de prise de conscience européenne qui est en train de se faire à Bruxelles. Il se passe des choses incroyables pour que des gens. Mais déjà penser ces choses-là, c'est compliqué. On a besoin d'aide. Savoir ce que c'est que rentrer dans les algorithmes, comprendre comment ils fonctionnent. Vous avez besoin aussi de gens. Ça, c'est un des petits points. Chez les journalistes, il y a peu de scientifiques. La plupart sont des littéraires de formation. Voilà. Or ça, c'est un besoin inouï qu'on a d'avoir des journalistes ingénieurs, etc. Parce que toutes ces choses-là, on ne peut pas les traiter simplement par des opinions. Il faut rentrer dedans et comprendre comment ça marche. Donc ça, c'est un des enjeux, par exemple, faire venir des gens de formation scientifique à la compréhension et à l'explication, à la pédagogie de tout ça. Et après, il faut, au niveau européen... Mais vous savez, nous, on a, bon, comme toute la presse, il y a des syndicats, des quotidiens, etc. Mais chaque année, on dépense des sommes en juridique pour se bagarrer, et pour aller à Bruxelles, faire valoir nos droits, discuter, qui un temps incroyable, incroyable. Donc, pour alimenter ce bien commun et essayer de faire. Donc, on est tous à essayer de réguler. Après, on est parfois pris dans des intérêts contradictoires. Donc, on a... Mais, Je vous ai provoqué sur la Chine parce que je sens aussi de plus en plus une tendance, puisqu'on pourrait comparer le digital à l'écologie d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on n'avait pas assez d'informations, aujourd'hui on est en surabondance totale et étouffé par elle. Voilà, sur le climat c'est un peu la même chose. Voilà, c'est, pour moi c'est deux combats identiques qui sont, on peut dire que l'apocalypse est pour après-demain, et puis voilà, et puis... Et puis faire un récit des bonnes nouvelles de ce qui s'invente partout en France. Parce que, et peut-être que je peux finir comme ça, à La Croix, on a parlé de journalisme constructif. Hein, c'est constructivisme, journalisme. Bon, on dit parfois journalisme de solution. En tout cas, ce qui nous anime, c'est une manière, une forme d'espérance. C'est-à-dire que, voilà, à partir de la communauté humaine, d'espérer que demain... voilà, on puisse avoir un monde meilleur. Voilà. Et ça, il faut un journalisme qui entraîne les gens, qui aussi leur montre qu'il y a des endroits où des choses se créent, positives, à Nantes ou ailleurs. Voilà. Et ça, c'est très important. Et c'est ça notre. Et c'est plus facile d'attirer sur les mauvaises nouvelles que sur ces nouvelles qui construisent. Et sur l'écologie, je finis là-dessus, sur l'écologie, dans la presse, par exemple. Vous avez très peu de scientifiques. Et puis après, l'écologie, ce n'est pas une rubrique de journal, forcément. Parce que l'écologie, ça concerne quoi ? L'économie, le politique, les sciences, etc. Et bien, dans un journal, pour faire travailler ces cinq personnes ensemble, de rubriques différentes, alors qu'un journal, il est formaté par cases, comme ça, voilà, ça, c'est par exemple un gros travail au sein d'un journal. Et dire, tous les cinq, avec vos compétences différentes, vous devez aborder de façon globale cette question écologique et y répondre semaine après semaine ou jour après jour. Mais ça, c'est aussi des transformations à l'intérieur de nous. Parce que sinon, chacun voyait ça, l'écologie, à travers un petit truc. Vous n'aviez jamais de parole globale, jamais de pensée globale. Donc là-dessus, on travaille là-dessus, pour ce qu'on a un peu l'intégral, dont l'humain, et aussi l'humain.
Voilà, ben ça sera le mot de la fin. Un grand merci, vraiment, à Pascal Ruffinac.
Merci à vous.